Alors le week-end dernier, j'étais pendant 4 jours à Berlin où il y avait Rinpoche qui faisait une petite retraite d'hiver avec quelques personnes. Et Rinpoche a beaucoup, beaucoup insisté, mais bon, quand on le connaît, on va dire qu'il insiste toujours sur la même chose, mais il a réinsisté beaucoup sur comment demeurer dans la nature de l'esprit. Pour lui, n'attachez pas d'importance aux formes, à la forme de la pratique. Ne soyez pas attaché au fait de pratiquer selon telle forme, mais observez votre esprit, quoi. Ça, vraiment, il insistait là-dessus. Tout ce que nous avons accompli dans le passé, nous ne pouvons plus rien changer de cela. Donc, quand on sent que nous sommes attachés à ce que nous avons vécu dans le passé, reconnaissons à ce moment-là que nous ne pouvons pas le changer et que bien sûr, le passé laisse des traces, ça laisse des empreintes, mais avoir du regret, avoir, je sais pas, d'autres facteurs mentaux par rapport au passé, il disait, laissez tomber ça. Et de la même façon, laissez tomber toutes les appréhensions, les craintes qu'on peut avoir sur le futur. Il disait, de toute façon, ce qui va se passer n'est jamais conforme à l'image que l'on imagine que ça va se passer. Et puis, quand ça va se passer, eh bien, on sera dans le moment présent. Donc, il n'y a pas besoin de se faire du souci, d'avoir des craintes, des peurs, des appréhensions pour le futur. La seule chose à faire, c'est de s'entraîner à comment réagir dans l'instant présent. Parce que quand le futur va se produire, quand il se produira, on ne sera plus dans le futur, on sera dans le présent. Et il a bien insisté que, en fait, notre façon de réagir dans l'instant présent, eh bien, c'est tout le processus de notre pratique qui se met en place à ce moment-là. Si nous avons pratiqué, c'est-à-dire que si nous nous sommes beaucoup entraînés pendant des années à être conscients de notre réaction dans l'instant présent et à pouvoir, par cette prise de conscience, remédier à notre façon de réagir, eh bien, nous serons à même de remédier notre façon de réagir quand nous serons à chaque fois dans l'instant présent. Pour lui, c'est la seule pratique qui est vraiment le cœur de la pratique du Dharma. Donc ne pas s'attacher au passé, ne pas s'attacher au futur et être conscient de l'instant présent. L'instant présent, il est constitué par une foule de conditions, de causes qui sont totalement indépendantes de notre volonté, qui ne sont pas maîtrisables par nous-mêmes. On ne peut pas maîtriser, eh bien, tout ce qui constitue l'instant qu'on est en train de vivre là, tout de suite. La seule chose que l'on peut maîtriser, donc que l'on peut modifier, eh bien, c'est comment nous réagissons par le fait d'être confrontés à cet instant présent, quel qu'il soit. C'est la seule voie de la libération. Toutes nos pratiques doivent nous ramener à vivre cet instant présent de cette façon. Que nos pratiques soient élaborées ou extrêmement simples, peu importe. Mais vraiment, quand Rinpoche terminait pendant une demi-heure à insister là-dessus, il redémarrait aussitôt en disant oui, c'est. Alors il disait en anglais, mais c'est vraiment important, il faut que vous compreniez vraiment ça, parce que, et puis recommencer, quoi. Et ça a duré tout un après-midi et toute une session du lendemain matin, quoi. Et on sentait que Rinpoche, quand il parle de ça, vous sentez qu'il n'est pas dans son bouquin, il n'est pas dans un texte, il est dans ce qu'il vit, quoi. Il vit ça. Et il vit ça en permanence. Et il a rappelé que, évidemment, la méditation sur le coussin est nécessaire, mais si nous pouvons avoir cette conscience de l'instant présent à chaque fois que l'on marche seul, à chaque fois que l'on est tranquille, que l'on n'est pas distrait par ça, par ci ou par ça, eh bien, nous méditons. Et nous sommes à ce moment-là dans la pratique. Et moi, je rajouterais, mais c'est la seule chose sur laquelle nous pourrons compter le jour où on fait face à un événement qui émotionnellement va peut-être nous submerger. Et c'est la seule chose sur laquelle nous pourrons compter, c'est-à-dire notre esprit, comment nous réagissons dans cet instant présent, le jour où on sera sur notre lit de mort. Il ne faut pas imaginer que s'il y a un Rinpoche ou la Mame Machin qui est à côté de notre lit, ça va fondamentalement nous aider. N'y comptez pas trop. Comptez sur vous-même. Comme le Bouddha disait, vous n'avez qu'un seul maître, vous-même. Comptez sur votre esprit. Et je rajouterai encore, ne comptez pas sur qu'un miracle se produise à ce moment-là, quoi. Moi, je ne crois pas beaucoup au miracle. Je crois que notre façon d'être, notre façon de réagir, eh bien, c'est le résultat de l'entraînement de notre esprit. Et cet entraînement, c'est ce qu'on appelle méditer. C'est la méditation. Donc, oui, pendant ces 4 jours, vraiment, Rinpoche a... Alors, il est marrant parce que il est arrivé complètement à Chefs. Il venait de faire Toronto, New York, New York, Bruxelles, Bruxelles, Berlin, le tout dans la foulée, en changeant d'avion à chaque fois. Il est arrivé, il était comme ça, à tel point que des personnes de Berlin l'ont emmené chez un médecin pour voir si tout allait bien. Bon, bah, oui, tout allait bien, mais il n'a pas pu digérer le décalage horaire, il n'a pas pu vraiment se reposer parce qu'il enseignait le soir même, du jour où il est arrivé, quoi. Alors bien sûr que son corps, on sentait que son corps était fatigué. Mais son esprit, vous le sentez toujours équanime. Vous sentez toujours qu'il est le même. Il a sa façon de réagir toujours identique, qu'il soit fatigué, pas fatigué, qu'il ait bien dormi, qu'il n'ait pas dormi, etc. Ça veut dire qu'il y a un entraînement de l'esprit, mais qui est... Il n'y a plus rien à apprendre, quoi. C'est devenu naturel. Pour son esprit. Rinpoche expliquait aussi que quand on est dans cet état de reconnaissance de l'instant présent et qu'on laisse passer et qu'on ne saisit plus rien, quelle que soit la situation, quel que soit le phénomène dans lequel on se trouve, l'esprit reste paisible. Il disait même dans une situation où émotionnellement c'est quelque chose de très fort, la perte de quelqu'un de proche, par exemple, il disait bien sûr que vous ressentez la peine et le manque de la personne, mais votre esprit reste libre, il n'est pas submergé émotionnellement par cette expérience douloureuse. Et c'est ça qu'on appelle la libération. Il ne faut pas imaginer que l'éveil ou la libération, c'est quelque chose, j'en sais rien, qui vient de l'extérieur et qu'il va y avoir des petites lumières, on va ressentir je ne sais pas quoi... Un truc totalement artificiel, surnaturel, etc. Hein? L'éveil, c'est synonyme de libération. De quoi se libère-t-on? Eh bien, de notre façon de réagir par rapport à tel ou tel événement. Alors bien sûr, il faut entraîner son esprit, d'où l'importance eh bien, de cet entraînement, de la méditation et de tout ce qui va, de toute la mise en place et la mise en pratique des moyens que le Bouddha a enseigné, que des maîtres aujourd'hui nous enseignent. Mais le cœur de la pratique, c'est ça, quoi. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, je rappelle où nous en sommes dans ce texte. C'est un texte de Ringur Tulku Rinpoche, qu'on a traduit en français par « En route vers l'éveil ». Donc, c'est un texte qui... dans lequel Rinpoche parle eh bien, de la voie graduelle, comment on avance à partir des 3 véhicules, que ce soit le petit véhicule qu'on appelle le Shravakayana, le grand véhicule, le Mahayana, et le bouddhisme tibétain qu'on appelle le Vajrayana. Nous en sommes dans les fondements du Sravakayana, du petit véhicule, en sachant, et il faut le rappeler à chaque fois, que ces trois véhicules sont présents dans les tantras, dans le Vajrayana, dans le bouddhisme tibétain. Donc, le bouddhisme tibétain n'est pas, comme on l'entend souvent, seulement le bouddhisme tantrique, quoi. Surtout qu'en plus, on imagine des tas de choses derrière le mot tantrique, hein, qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Mais dans le Vajrayana, eh bien, vous avez les fondements qu'on trouve dans le petit véhicule, la motivation qu'on retrouve dans le grand véhicule, etc. Donc, tout est inclus dans le Vajrayana. Donc, il est extrêmement important, eh bien, de poser les fondements. Et ces fondements que développe Rinpoche dans ce texte, eh bien, c'est les quatre nobles vérités. Nous avons vu la première noble vérité, à savoir que nous rencontrons constamment dukkha. Dukkha, ce n'est pas simplement la souffrance, de la maladie, de la mort, etc. C'est aussi la moindre contrariété, l'insatisfaction, la frustration, etc. Les petites choses de la vie quotidienne, eh bien, qui, les petits grains de sable, hein, qui se passent, qu'on ressent dans notre vie quotidienne. Et on peut dire, le Bouddha disait que nous rencontrons tout le temps dukkha, que dukkha est omniprésent partout. Ben, qui peut dire qu'aujourd'hui, nous avons été totalement exempts de dukkha? On a forcément rencontré dukkha aujourd'hui. On n'a pas forcément la grosse maladie, on n'est pas en train de mourir, voilà. Mais on a subi des petites contrariétés, des petites frustrations, etc. La deuxième noble vérité, très importante, c'est l'origine de dukkha. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi expérimentons-nous dukkha? Et il faut se rappeler que l'origine de dukkha, c'est ce qu'on appelle l'ignorance fondamentale. Cette ignorance fondamentale, c'est le fait de ne pas voir la nature même de toute chose, des phénomènes, mais également de nous-mêmes, de l'individu. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas le non-soi des phénomènes et le non-soi de l'individu. Ne le voyons pas, ne le comprenons pas, eh bien, on fonctionne en imaginant, en créant dans notre esprit un concept que les phénomènes existent par eux-mêmes et que les individus existent également par eux-mêmes. D'où la conception d'un moi, etc. Et c'est tellement ancré dans notre esprit depuis des temps sans commencement que cette conception, eh bien, est extrêmement solide, ancrée, et qu'on a vraiment l'impression que le moi existe. Cette ignorance, elle se manifeste par... Rinpoche développe deux voiles, manifestations de cette ignorance, à savoir les facteurs perturbateurs, ce qu'on appelle les émotions négatives, la jalousie, l'orgueil, l'attachement, l'indifférence, etc. Et puis le voile du karma, le voile de la causalité. Mais on rajoute le voile des tendances et le voile de la dualité, et là, vraiment, on a tout le fonctionnement qu'on appelle samsarique, c'est-à-dire basé sur cette ignorance. Et c'est cette ignorance, avec ses manifestations plus concrètes qu'on vient de voir, eh bien, qui sont à l'origine de notre expérience douloureuse, qu'on appelle le dukkha. Donc évidemment que la troisième noble vérité, c'est si on fait cesser cette ignorance fondamentale, c'est-à-dire cette origine, eh bien, par là même, on fait cesser dukkha. Et donc, il y a une libération possible de dukkha. Le problème, c'est qu'il faut vraiment une méthode et qu'il faut appliquer cette méthode longuement, qu'elle est graduelle et avec laquelle il faut beaucoup de patience, parce que il faut en fait nous déconditionner ou nous déformater de cette croyance en l'existence d'une entité solide qu'on attribue aux phénomènes, aux choses, aux événements, aux situations, et que l'on attribue également aux individus, donc à soi-même. S'il suffisait de se dire « Bon, ben, je comprends intellectuellement le non-soi de l'individu et le non-soi des phénomènes », pour que cette illusion se libère de notre esprit, on serait Bouddha déjà depuis longtemps, je crois. Le problème, c'est qu'on peut le comprendre intellectuellement, mais c'est tellement ancré qu'il faut appliquer encore et encore cette compréhension, c'est ce qu'on appelle l'entraînement de l'esprit, de façon à ne plus fonctionner sous l'emprise de cette ignorance. Donc c'est pourquoi ça, la méthode, la quatrième noble vérité, eh bien, prend du temps, le chemin prend du temps, et ceux qui sont dans le dharma depuis 10, 20, voire 30 ans, eh bien, on sait bien que ça prend du temps et que il y a encore pas mal de manifestations de l'ignorance dans notre esprit. Mais il y a quand même, on assiste, on constate, on expérimente qu'il y a une transformation, qui est certes peut-être pas miraculeuse, mais avec le temps, on constate bien, eh bien, une transformation. Et ça, c'est plutôt rassurant. Et c'est rassurant pour nous-mêmes, parce que le chemin est possible, et on se rend compte qu'il est possible. Et c'est rassurant aussi de savoir que le Bouddha était un être ordinaire, les maîtres aujourd'hui sont des êtres ordinaires, et simplement, ils ont fait ce chemin. Il n'y a pas de différence entre eux et nous. Le Bouddha le disait, le répétait. Si nous pensons que nous sommes inférieurs à ces êtres-là, ça, c'est une conception que nous avons de nous-mêmes et qui est un obstacle. Et pour nous, occidentaux, travailler là-dessus, quoi. Parce que le fait de ne pas croire en cette nature de Bouddha, c'est-à-dire en cette potentialité de sagesse, ça c'est très fort en Occident, quoi. Et on ne peut pas pratiquer le bouddhisme si l'on n'a pas confiance dans cette nature de Bouddha, quoi. Tout médiocre que nous sommes, etc., hein, nous avons cette possibilité de nous améliorer, d'avancer, et de travailler et de transformer notre esprit, c'est-à-dire les tendances que nous avons à réagir face à telle ou telle situation. C'est extrêmement important d'être confiant dans ce potentiel de changement, quoi, de transformation. Si nous n'avons pas confiance dans cette transformation possible, mais que fait-on ici ce soir, quoi ? Pourquoi, à ce moment-là, on s'oblige à méditer tous les jours ? On fait des stages, on suit des enseignements, on reçoit des instructions. Enfin, quel est le sens de suivre un chemin si nous sommes persuadés que ce chemin n'aboutira pas à son objectif, c'est-à-dire la libération, quoi. On est maso ou quoi? Donc non, il faut vraiment constater qu'il y a une transformation. Certes, cette transformation, elle va peut-être pas à la vitesse à laquelle on voudrait que ça aille. D'accord. Mais ça, ça c'est une autre histoire. On ne maîtrise pas ça forcément. Hein? Et donc, le chemin, eh bien, le chemin, c'est l'octuple sentier. C'est-à-dire, c'est un chemin à 8 voies. Et nous avons vu le premier aspect de cet octuple sentier le mois dernier, qui consistait à développer la vue juste. La vue juste, eh bien, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Quand on nous dit que les choses sont impermanentes, mais voyons-les comme impermanentes, quoi. Il faut se rappeler cela et appliquer encore et encore l'impermanence de toute chose, c'est-à-dire qu'elle se transforme d'instant en instant. Ça ne va pas nous empêcher de vivre pleinement ce qui nous est agréable, mais ce qui va disparaître dans l'expérience de ce qui nous est agréable, c'est l'attachement à l'expérience. Et c'est l'attachement qui est cause de souffrance. Parce que l'attachement vient, s'élève dans notre esprit, à partir de l'ignorance fondamentale, c'est-à-dire à partir du fait, eh bien, que nous ne reconnaissons pas, que nous n'acceptons pas, que les choses sont de cette nature impermanente. Comme elles sont toutes de nature interdépendante. Elles n'existent aucunement par elles-mêmes. Réfléchissez là-dessus, prenez n'importe quoi comme signe, n'importe quelle situation, n'importe quel objet, et observez et essayez de voir si cet objet existe par lui-même ou au contraire si cet objet existe parce qu'il y a une foule de composantes qui lui permettent d'exister. Et pareil pour l'individu. Et donc ça, on avait développé ça le mois dernier. Donc aujourd'hui, on va voir la pensée juste. Alors Rinpoche explique que le plus important à comprendre ici, c'est l'influence prépondérante de la pensée. Souvenez-vous, dans la loi de causalité, hein, pour qu'un acte soit dit négatif, il y a bien sûr l'effet que cet acte va produire sur la personne, hein, sur l'être, mais aussi et surtout la motivation avec laquelle on va accomplir l'acte. Et c'est la motivation qui va donner la couleur positive ou négative de l'acte. C'est-à-dire qu'il y a des actes dont l'effet peut être considéré comme négatif parce qu'il est cause de souffrance pour l'autre, mais dont la motivation est totalement positive. Je suis désolé quand vous engueulez votre gosse parce qu'il veut faire quelque chose de dangereux. Il va le prendre comme quelque chose de négatif, hein, mais votre motivation n'est pas du tout de le faire souffrir. C'est bien par amour, par protection, etc. Et tout parent est bien obligé d'agir de cette façon-là par amour. L'amour, ce n'est pas toujours caresser l'ego dans le sens du poil. C'est aussi avoir une attitude quelquefois ferme, qui dit non, et même si ce n'est pas très, très bien compris. Juste une anecdote, Rinpoche nous a raconté une histoire, la plus belle histoire qu'il préfère dans toutes les histoires. Vous savez que Rinpoche, au cours des enseignements, il adore raconter des histoires. Et cette histoire-là, il la tient, mais alors vraiment au sommet de toutes les histoires qu'il aime. C'est l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas d'emploi, qui recherche un emploi. Alors, cette jeune femme va dans un bureau, l'équivalent de Pôle emploi, et puis elle demande donc un travail, et la personne qui la reçoit lui dit « Oui, bah, j'ai un emploi pour vous, mais seulement, il y a un problème, c'est 7 jours sur 7. » Alors, la personne dit « Ah bon, il n'y a même pas le week-end ?»« Non, non, c'est 7 jours sur 7, et vous devez travailler absolument... 7 jours sur 7, et en plus 24 heures sur 24. Alors, la personne, elle se dit qu'il faut qu'elle prenne ce travail quand même, et le mec lui dit, oui, mais en plus, c'est 365 jours par an, quoi. Donc, il n'y a pas du tout de vacances, et c'est comme ça, quoi. Alors, elle réfléchit, elle dit, d'accord, mais au moins... il doit y avoir un super salaire, quoi. Et le bonhomme lui répond, non, vous ne serez même pas payé du tout. Alors elle lui dit, mais c'est quoi ce travail? Je ne vois pas du tout. Et le mec lui répond, c'est celui d'être maman. D'être une maman. Et pour Rinpoche, c'est vraiment... c'était très émouvant quand il en parlait. Vous savez que Rinpoche, il adore sa mère, et qui est très âgée maintenant. Mais il disait, voilà, une mère, c'est ça, quoi. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'elle pense à ses enfants, qu'elle... Voilà. Et il nous disait en riant, vous l'avez payé souvent ? Alors évidemment, dans l'assistance, il y a toujours tout de suite quelqu'un qui a dit, oui, et le père là-dedans ? Alors une petite a dit, mais bien sûr que le père est à peu près pareil, quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pour ça que les Tibétains ont cette image de la mère extrêmement importante pour eux, parce que sans cet amour maternel, eh bien, on ne pourrait pas exister. Et Rinpoche dit, même si vous avez des conflits avec votre mère, la plupart des mères ont agi de cette façon-là, quoi. Voilà. Donc on en revient à notre pensée juste, à notre motivation. Rinpoche dit, quelles que soient les actions que nous entreprenions, qu'elles soient correctes ou incorrectes, elles sont précédées et initiées par une pensée. Beaucoup de gens ne seront pas de cet avis et prétendront que leurs émotions, telles que la colère par exemple, adviennent avant même qu'ils puissent penser. À y regarder de plus près, on découvre pourtant qu'il s'agit là d'une conception erronée. Pour que la colère se manifeste, il faut nécessairement qu'il y ait au préalable la conception de quelque chose de désagréable. Bon. Et ça, il faut revoir là-dedans comment la colère se met en place dans notre esprit. Quand une de nos consciences entre en contact avec un objet, il y a immédiatement une sensation qui est perçue par l'esprit. Agréable, désagréable ou neutre. Quand la sensation est désagréable, immédiatement, notre esprit rejette cet objet. Alors, le début du rejet, c'est une simple aversion, c'est un simple désir de se séparer de cet objet. Hein. Mais si on se laisse avoir par ce début d'aversion, c'est-à-dire si on saisit cela, eh bien cette aversion va se développer, se transformer en une aversion beaucoup plus forte, voire une colère, voire de la haine. Quoi. Mais c'est bien par ce phénomène qui s'est passé dans notre esprit que la colère a pu naître. La colère, elle ne peut pas naître comme ça. C'est parce qu'il y a contact avec une pensée, d'un individu par exemple, c'est parce qu'il y a contact avec un objet, c'est parce qu'il y a contact avec une parole qu'on entend, une perception, c'est parce qu'il y a contact avec une sensation que les facteurs perturbateurs tels que la colère, eh bien, naissent dans notre esprit. Et ce contact, et c'est ce que, là on peut rejoindre ce que je vous disais au début de l'enseignement sur lequel Rinpoche a tellement insisté, ce contact, s'il a lieu, on ne peut pas maîtriser ce qui permet ce contact. C'est-à-dire que s'il y a une pensée relative à quelqu'un qui nous a fait du mal, par exemple, s'élève dans l'esprit, on ne peut pas maîtriser les conditions qui permettent à cette pensée de s'élever. Et le contact, il va se faire, qu'on le veuille ou non. Qu'on ait complètement élagué la situation, qu'on ait refoulé tout ça, peu importe le contact, il se fera de toute façon. Quoi. Et il se fait, et il continue de se faire. Et s'il ne se fait pas là quand on est conscient, il se fait dans les rêves, il se fait autrement, mais il continue de se faire. Le contact avec une sensation ou avec une perception, si l'autre, par exemple, nous insulte, il y a ce contact avec cette parole, on ne peut pas maîtriser les conditions qui font que eh bien, cette insulte elle sorte de sa bouche et puis nous touche. La seule chose que l'on peut maîtriser, c'est ce qui se passe dans notre esprit quand on est en contact avec cet objet. Et c'est là où la libération est possible. On peut se libérer de cet enchaînement que ce contact entraîne dans notre esprit. Au début, on va pouvoir se libérer et laisser passer l'aversion quand on sera déjà peut-être bien dedans, quoi. Mais avec un certain recul, on pourra se dire, bon, ben, je lâche, allez, laisse tomber, et je laisse passer. Mais plus nous pratiquerons cet exercice, plus nous serons à même de lâcher l'aversion au début de son apparition. Et à ce moment-là, ça sera très facile, eh bien, de lâcher. Mais cette possibilité de lâcher ou de se laisser prendre, avoir par ce facteur perturbateur, ça nous appartient. Parce que c'est notre esprit qui fonctionne de cette façon-là. Qu'est-ce qui est important dans ce fonctionnement? C'est la vigilance. C'est la conscience. C'est shiné, shamatha, le calme mental, avec la présence à ce qui fonctionne dans mon esprit. C'est pour ça que j'insiste tant sur le fait que chiner, ce n'est pas simplement être concentré sur quelque chose, concentré sur un support. C'est, oui, il y a cette concentration, mais il y a, et je dirais surtout, mais ça va avec la concentration, être conscient du fonctionnement de notre esprit. Comment mon esprit est en train de réagir par rapport à tel phénomène, par rapport à tel contact avec une situation, avec tel phénomène, etc. Alors, Rinpoche explique que le genre de personne que nous devenons n'est qu'une question de tendance et d'habitude. Plus nous cultivons une habitude donnée, comme par exemple être sujet à la colère, à la jalousie, etc., plus nous nous transformerons en une personne ayant ce caractère en particulier. Cependant, et pour la même raison, nous avons également la capacité de changer. Les bonnes habitudes comme les mauvaises peuvent être modifiées. Plus nous cultiverons les bonnes, plus nous affaiblirons les mauvaises et réciproquement. C'est le point central à comprendre ici. Voilà. Donc, c'est pourquoi la bodhicitta, l'esprit d'éveil, cette motivation qu'on développe en début de journée, par exemple, avec la force de l'impulsion. Quand on se lève le matin, au lieu de se dire tout de suite où est le café, commençons par prendre refuge, placer notre confiance dans les trois joyaux et développons la bodhicitta. Ça, au début, ça n'aura pas beaucoup d'impact sur notre esprit. Mais l'entraînement va faire que, eh bien, ça va donner une impulsion, une orientation à notre esprit pour la journée. Et quand, si vous commencez votre journée en vous disant, en développant cette bodhicitta, je vais m'efforcer, je vais être vigilant et m'efforcer d'être bienveillant, d'être à l'écoute de l'autre, de ne pas me laisser aller à ma saisie égotique habituelle, de ne pas me laisser aller toujours à ma façon de réagir très prompte et un peu instinctive par rapport à telle situation, mon collègue de boulot que je ne peux pas encaisser, eh bien, ce qu'il fait naître dans mon esprit, je vais essayer de modifier ça, quoi, etc., etc. Ça, c'est la pratique. Et dans quelques mois, dans quelques années, mais cette attitude intérieure va nous sembler beaucoup plus naturelle, beaucoup plus facile. Et ça voudra dire quoi? Eh bien, ça voudra dire que notre esprit s'est modifié, a changé. Donc, il faut prendre conscience des tendances de notre esprit et modifier ces tendances-là par des pensées, eh bien, des pensées, on va dire, positives, c'est-à-dire avec la couleur de la bodhicitta, de cet esprit d'éveil. Sinon, on attend qu'un miracle se passe. Par exemple, Rinpoche, dans ce genre de retraite d'hiver, il enseigne les 108 pratiques que je n'angle pas. Bon. La sixième, c'est faire la pratique de Che. Donc, il en était à la sixième. Che, vous savez, c'est cette pratique très belle, avec des mélodies très belles, avec un gros damaru, un grand tambour, là à droite, la cloche ici, et puis poum, poum, poum. Là, on est comme ça. Et c'est très beau, et quand vous êtes 30 à faire Che, c'est vraiment super. Mais il insistait. Che, le mot che en tibétain veut dire couper. Couper. C'est pas tambouriner, clocheter, ou je sais pas quoi. Ça veut dire couper, che. Qu'est-ce qu'on coupe? La saisie, quand on est conscient que, eh bien, elle se manifeste. Donc il disait, en fait, l'essence même de la pratique de che, il n'y a pas besoin de tambour, il n'y a pas besoin de cloche, il n'y a pas besoin de texte, il n'y a pas besoin de savoir les mélodies, etc. À chaque fois que l'on coupe dans notre esprit la saisie égotique, quand on sent qu'on crispe quelque chose, qu'on saisit, qu'on s'agrippe à quelque chose, eh bien, on fait che. Et c'est ça le cœur même de la pratique de che. Ça se passe dans notre esprit, quoi. Quand vous ressentez de l'amour pour tous les êtres, de la compassion pour tous les êtres, ça peut se produire. Vous êtes en méditation, vous pensez à tous les êtres, et vous pensez par exemple à tous ceux qui souffrent avec les événements qu'on vient de vivre, etc. Et que vous sentez votre cœur à ce moment-là exprimer toute cette compassion et que vous en avez les larmes aux yeux. Ne vous dites pas à ce moment-là « Oh oui, mais attends, j'ai pas récité la prière machin, j'ai pas pris mon texte, etc. » Laissez votre esprit, laissez votre cœur vivre ça. Et c'est ça véritablement la pratique. Et cette pratique, elle va être transformante. Si vous avez un moment de dévotion pour votre maître, de reconnaissance, de confiance, etc., pour tout ce qu'il vous a donné, etc., laissez votre esprit, c'est-à-dire laissez votre cœur exprimer tout cela. Et tant pis s'il y a les larmes qui coulent. Mais laissez votre cœur exprimer ça, quoi. Laissez votre tête, la forme. La forme, revenez-y, quand votre esprit est dans la distraction. Quand cette vigilance n'est plus présente, quand on est distrait, on se laisse avoir partout, toutes les sensations, toutes les perceptions, et on n'a plus rien, on n'a plus l'impression de contrôler quoi que ce soit. Alors à ce moment-là, vous revenez à la forme, vous reprenez votre texte, etc. Parce que ça va recanaliser votre esprit vers la pratique. Mais de quoi aurons-nous besoin sur notre lit de mort si ce n'est de pouvoir être attentif à ce qui va se passer dans notre esprit, quoi. Si on les a comme ça, eh bien, il faudra bien faire avec et voir comment on réagit par rapport à cela. Il ne faudra pas se dire... Ah oui, mais j'ai une peur terrible, mais alors où est ma cloche? Où est mon damaru? Où est mon texte? Où est mon mala que je tiens de la main gauche et pas dans la main droite? Etc., etc., quoi. On n'aura plus besoin de tout ça. Donc, il est donc très important, dit Rinpoche, de comprendre que chacune des actions que nous entreprenons est subordonnée à une pensée. Si nous avons des pensées caractérisées par l'amour, la compassion, la bienveillance ou la joie, nos actions auront la qualité correspondante. Nos pensées, à leur tour, ne sont pas arbitraires. Elles sont des habitudes qui peuvent être changées. Ce changement doit être provoqué activement. Il ne se produira pas de lui-même, dit Rinpoche. Voilà. Nous sommes maîtres de notre changement. En fait, nous n'avons rien à attendre des autres, que ce soit du Dalai Lama, du Karmapa, de Rinpoche ou de je ne sais qui, ils ne peuvent que nous inspirer pour que nous fassions le travail nous-mêmes. Alors nous avons besoin de cette inspiration, nous avons besoin de leur contact, nous avons besoin de constater que le changement est possible. Quand on est auprès d'eux, eh bien, on constate que leur esprit fonctionne quand même d'une façon différente d'une autre, ça c'est clair, qu'il y a donc ce changement possible, et ça nous inspire. Mais au-delà de l'inspiration qu'ils peuvent nous transmettre et des instructions qu'ils peuvent nous donner, le reste du travail, c'est à nous de le faire, quoi. Ceux qui croient que parce que le Dalai Lama, l'année prochaine, à Strasbourg, si on arrive à être en face de lui et qu'il pose sa main sur notre tête, on va avoir comme une espèce d'éclair spirituel et que tout va se mettre en place... Mais on est dans la superstition, on n'est pas dans la pratique de la méditation. Je dirais même qu'on n'est pas dans une pratique spirituelle. Il n'y a aucune voie spirituelle qui met de côté l'entraînement progressif, la diligence, la patience, et on recommence. Rinpoche a beaucoup insisté aussi sur le besoin de ne pas culpabiliser lors de nos échecs, quoi. Il a insisté là-dessus en disant « On est quand même les rois de la culpabilité en Occident. » On n'accepte pas de faire des erreurs. Mais enfin, personne n'a pu jouer parfaitement du piano sans faire des fausses notes, quoi. Donc, acceptons les fausses notes que nous faisons dans notre pratique, mais sachons pourquoi... Et là, c'est important, sachant pourquoi nous avons fait telle erreur. Qu'est-ce qui a manqué dans notre pratique, dans le fonctionnement de notre esprit? C'est peut-être la vigilance, c'est peut-être la motivation, on s'est peut-être laissé entraîner, etc. Donc, quand on connaît le pourquoi de l'erreur, on peut rectifier, on peut reporter son attention sur le point qui a manqué. Et là, on rectifie. Et le chemin se fait de cette façon-là. Mais rappelez-vous, au début de ce texte, Rinpoche disait que c'est une voie graduelle. On ne va pas y arriver parce qu'on le décide à midi, on ne va pas y arriver le soir comme ça, quoi. Ça va être des années et des années et des années de pratique. Le bouddhisme dit que nous devons le faire par nous-mêmes. Alors, quelque chose se produira. Ensuite, toujours dans le même, sur ce même thème, il explique que nos habitudes ne changeront pas à moins que nous les changions nous-mêmes. Dans ce contexte, nos pensées sont l'objectif principal. Quels sont le point de départ de toutes nos actions? Nos pensées déterminent si nous agissons de façon correcte ou incorrecte, ainsi que le genre de personne que nous devenons. Dès que nous avons des pensées correctes, nos actions ne peuvent aller de travers. Au début, les tentatives pour réformer nos habitudes de pensée ne seront pas si simples. Donc voilà, il faut savoir eh bien, que ça va demander un certain effort, une certaine régularité, et que nous avons besoin aussi de la confiance dans les instructions. Cette confiance, elle ne doit pas être aveugle, elle doit se construire. Qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir confiance dans les instructions que donne tel maître ? Notre expérience. C'est notre expérience qui va valider les instructions, qui va valider les enseignements du Bouddha. Rappelez-vous, nous n'avons pas à croire ce que le Bouddha enseignait, nous n'avons pas à croire ce que le tel Rinpoche nous enseigne, simplement parce qu'on a une certaine dévotion pour tel ou tel Rinpoche. Cette confiance, elle se construit à partir de la mise en pratique des instructions que l'on reçoit, parce qu'elles nous semblent justes, mais à nous de vérifier si vraiment elles nous sont justes, et si elles apportent cette modification de l'esprit. À partir du moment où nous constatons que elle modifie notre esprit, alors c'est une véritable confiance, mais qui se basera sur cette certitude de l'expérience et qui va se construire. Et cette confiance, rien, plus rien ne peut venir la démolir. Si c'est une confiance simplement par une confiance, on va dire, extérieure, parce que on a un coup de foudre pour tel Rinpoche un jour, on le trouve sympa, voilà. Ça ne va pas durer très longtemps. Mais la confiance que l'on tire de l'expérience des instructions, ça, c'est du béton, quoi. Plus rien ne peut venir démolir cela. Même si quelqu'un peut vous dire, mais vous faites erreur, c'est pas ça le dharma. Mais vous savez que pour vous, c'est une instruction qui est précieuse parce qu'elle produit cette transformation de l'esprit. Et cette instruction, cette pratique, elle peut être celle-ci maintenant, dans 6 mois, elle peut être autre. Elle peut être autre. Et il y a cette variété des instructions données par le Bouddha, non seulement parce qu'il y a une variété d'êtres et qui tous ne peuvent pas pratiquer la même chose, mais parce que notre pratique, elle évolue aussi en fonction du temps et en fonction de notre évolution intérieure. Il faut accepter cela. Rinpoche, à Berlin, rappelait que nous devons voir comment les autres écoles, et pas seulement les autres écoles bouddhistes, mais voir d'autres écoles spirituelles, comment elles fonctionnent et comment elles travaillent sur cette transformation intérieure. Ça peut nous donner des façons de travailler sur notre esprit dont on a besoin à ce moment-là. Dans le Zen, par exemple, quand il parle de la nature de l'esprit, dans le fond, c'est la même chose que nous. Mais ils en parlent différemment. Donc leur approche peut nous ouvrir des portes pour travailler directement sur notre esprit. Dans le Theravada, dans le Sravakayana, le petit véhicule, leur approche est encore différente. Mais il ne faut pas se dire, voilà, moi je suis dans le bouddhisme tibétain, alors le Zen c'est leur histoire, le Theravada c'est vraiment leur histoire, c'est leur façon de voir. Moi je ne vois que à partir du Vajrayana. Rinpoche disait, mais c'est une grossière erreur ça. Nous devons enrichir notre pratique par l'expérience des autres. Et voir comment on peut utiliser cette expérience-là. Quel est l'impact et voilà, qu'est-ce que ça peut provoquer sur notre esprit. Donc on a besoin de cette confiance. On a besoin de patience. Parce que, ça, comme je disais tout à l'heure, cette modification ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, quoi. Et pour aller avec la patience, il faut la persévérance. Donc là, on est en plein dans les paramitas, quoi, dans les vertus transcendantes. On a besoin de ces vertus-là, mais pour notre pratique. on a besoin de recommencer tous les jours mise en pratique de telle instruction, quoi. Et de s'entraîner, et sans savoir exactement pourquoi, il y a des jours ça sera facile, il y a des jours ce sera plus difficile, il y a des jours ça demandera un effort, il y a d'autres jours on aura l'impression de le faire comme ça, les doigts dans le nez. Peu importe, peu importe. Mais vous n'avez pas un seul maître dans le passé qui a réalisé cette libération, qui a réalisé le Bouddha, sans un entraînement. Un entraînement, en général, soutenu, quoi. Donc, cet entraînement, eh bien, nous devons le faire. Donc, voilà pourquoi on parle de régularité, de persévérance, de diligence, etc., quoi. Mais ça se base beaucoup sur la confiance, d'abord. Rinpoche termine en parlant de vous savez, de Shantideva qui avait un disciple, je crois que c'est... Oui, Shantideva qui avait un disciple qui mettait toujours l'accent, il devait avoir des traces occidentales, il mettait beaucoup l'accent sur ses actes négatifs, sur tout ce qu'il faisait de négatif, il n'y avait pas grand-chose de bon, quoi. Alors Shantideva lui dit, écoute... tu vas observer ton esprit et puis tu prends deux tas de cailloux, un noir et un blanc. Et à chaque fois que tu as des pensées négatives, effectivement, tu mets un caillou noir à tel endroit. Et puis quand tu as des pensées positives, tu mets un caillou blanc à un autre endroit, quoi. Et au début, effectivement, il n'y avait que le tas de cailloux noirs qui grossissait. Le blanc, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Mais au fil des mois, grâce à son entraînement de l'esprit, eh bien, il y a eu de moins en moins de cailloux noirs et de plus en plus... de cailloux blancs, quoi. Ce qui montre bien que, eh bien, cette transformation est possible. Donc, Rinpoche, pour conclure, dit « Nous devrions essayer d'être aussi conscients que possible. Cela ne veut pas dire que nous devrions nous sentir coupables à chaque fois que nous avons une pensée négative. En étant simplement conscients et en nous exerçant continuellement à cette conscience, nos pensées négatives diminueront progressivement et céderont la place à de plus en plus de pensées positives. » Bien. Maintenant, quand on parle de la pensée juste, c'est aussi, on fait référence aussi à la pensée de renoncement. Renoncer à la souffrance, renoncer aux causes de la souffrance. Je n'ai pas retrouvé le mot tibétain, mais je vous avais dit, je crois, le mois dernier, hein, en tibétain, renoncer, le renoncement, ça n'a pas du tout le même sens qu'en français. En français, on voit ça plutôt comme quelque chose de difficile. Hein. Le mot renoncement en tibétain, ça veut dire être libre. C'est-à-dire que quand on dit non à quelque chose, eh bien, on se coupe de cette chose-là. Donc, on en est libre. C'est, je trouve, plus positif, hein, comme sens donné à ce mot-là. Mais c'est donc pensée de renoncement, et la pensée juste, c'est aussi la pensée de bodhicitta. C'est vraiment la pensée de libérer les êtres de dukkha et des causes de dukkha. Dalai Lama dit souvent qu'un bodhisattva, c'est celui qui se sent responsable de la libération des autres êtres. Et qu'il n'attend pas que ce soit quelqu'un d'autre qui libère les êtres. On s'est revus depuis les événements à Paris. On s'était vus avant ?
Oui, juste avant.
Juste avant. Bon. Dans les shulings, etc., beaucoup de personnes disent « Que faire ?» face à ces événements-là. Que faire ? Évidemment que si l'on peut faire quelque chose au niveau de la bodhicitta relative, c'est-à-dire si l'on peut agir pour soulager, pour aider, etc., ça, nous devons le faire, c'est clair. Mais ce qu'il y a à comprendre aussi, c'est que dans l'esprit de ces individus qui ont tué toutes ces personnes, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est élevé dans leur esprit et qui a, sous l'emprise de quoi, eh bien, ils ont accompli de tels actes. Ce sont des facteurs perturbateurs.
Ils voulaient être des héros.
Il y avait peut-être ça, mais il y avait l'aversion qui était présente. La haine, etc. Bon. Après, sous l'emprise de ça, de la haine, eh bien, ok, il se laisse embarquer par ça, et puis, donc il n'y a plus aucun contrôle de l'esprit à ce moment-là, et avec une Kalachnikov, et voilà les résultats. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est ce qui se passe dans l'esprit. Dans notre esprit, ce qui se passe à longueur de journée, je suis désolé, c'est le même fonctionnement, c'est la même chose. Ce qui diffère, c'est l'acte que ça entraîne, les conséquences que ça entraîne. Mais quand on a de l'aversion, voire de la haine pour quelqu'un, c'est la même chose qui se passe dans notre esprit que dans l'esprit d'un terroriste. Kalu Rinpoche revenait souvent là-dessus. Il disait, il n'y a pas de différence fondamentale entre deux individus qui déclarent la guerre au niveau de deux nations que deux individus qui sont en conflit entre eux. Comme dans un couple, il disait. C'est le même fonctionnement. Les conséquences sont différentes, les actes que ça entraîne sont différents. Ça, je suis d'accord. Mais au niveau du fonctionnement de l'esprit, c'est la même chose. Et Rinpoche disait, Kalu Rinpoche concluait en disant, dans un couple, ça dure souvent plus longtemps que dans une guerre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas libres de ce fonctionnement de l'esprit. Nous ne sommes pas libres de ces facteurs perturbateurs. Si vraiment nous voulons changer le monde, commençons par nous changer nous-mêmes. Parce que nos actes seront différents, nos comportements, nos attitudes, etc. Et ça pourra influencer aussi les autres à peut-être vouloir changer. Mais je dis peut-être parce que personne ne peut changer, ne peut modifier l'esprit de quiconque. Le Bouddha n'a pas pu le faire. Les Bouddhas d'aujourd'hui ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent que montrer le chemin. Mais c'est tout, quoi. C'est à nous de changer. Parce que si on pouvait modifier l'esprit de l'autre, alors d'abord, ça serait catastrophique. Ou on serait déjà peut-être Bouddha, déjà tous depuis longtemps. Parce que les bodhisattvas, ils se seraient employés à cela, quoi. Si nous ne sommes pas Bouddha, c'est que il n'y a pas cette possibilité. Hein? Donc ça, c'est important. Pourquoi je disais ça? C'est au niveau de la pensée juste. Donc les pensées de renoncement, les pensées d'amour, de compassion, hein, la bodhicitta relative. Mais la pensée juste, ça inclut aussi la bodhicitta ultime, c'est-à-dire cette force de l'impulsion qu'on donne le matin, eh bien, c'est de se dire, mais je vais travailler sur les deux aspects de la bodhicitta. Être aimable, d'accord, mais la bodhicitta ultime, c'est être conscient lorsque je saisis quelque chose. Donc, observation de l'esprit, observation de cette saisie qui est dans mon esprit. Et lorsque je suis conscient que je suis en train de saisir, appliquer les instructions pour que ça lâche. Quand ça ne lâche pas, ça ne lâche pas, ça ne peut pas lâcher. Mais beaucoup de fois, ça peut lâcher. Et ça peut lâcher lorsque on saisit de petites choses. Et c'est cet entraînement à ne pas saisir les petites choses que dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans, on pourra ne plus saisir ce que l'on saisit obligatoirement aujourd'hui parce qu'on n'est pas assez, notre esprit n'est pas suffisamment entraîné. Donc voilà pour la pensée juste. Sinon, au niveau de Rinpoche, Rinpoche a reprécisé qu'il serait présent au mois de septembre l'année prochaine à Strasbourg pour la venue du Dalai Lama, qu'il était ravi que Bodhicharya France soit membre organisateur de cet événement, parce que pour lui c'est important. Ça veut dire qu'on a une proximité à ce moment-là avec le Dalai Lama, donc pour des histoires de connexion, d'interdépendance, etc. C'est servir l'activité d'un grand bodhisattva comme le Dalai Lama. Donc pour Rinpoche, c'était important. Et que Rinpoche serait à Luce fin avril, sans doute. Alors, on ne sait pas encore les dates. Il faut qu'on voit avec la personne qui organise son emploi du temps. C'est très compliqué, mais sans doute fin avril. Voilà, rien d'autre à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant. Tout va bien alors. Marie-Vanne.
Moi, j'aurais besoin d'un conseil. Dans notre rue, tout d'un coup, il y a eu 3 personnes avec des cancers déclarés. Mais dans vraiment dans une ligne, quoi. Plus une autre personne, 2 autres personnes. Enfin, des gens assez malades. Et on sent que la pensée de la mort ne les a pas traversés. Alors, vraiment, je ne sais pas quoi faire. On est proche, mais je ne mets jamais le sujet là où il est. Parce qu'en fait, c'est la peur de mourir, l'angoisse, tout ce qui va arriver, l'impermanent, enfin, tout vient d'un coup.
Mais,
Je suis vraiment un peu. Je sais pas du tout.
Mais la majorité des êtres vivent comme ça. C'est.
Comment aider dans un cas comme ça? Parce que c'est.
Après, cela dépend la relation qu'on a avec la personne. Et si la personne s'ouvre à ce genre de discussion, à ce genre de si elle est sensible, si elle a envie d'en parler, si elle a envie d'aborder la chose, vous savez, même en soins palliatifs, il y a beaucoup de personnes qui c'est fermé, hein, et c'est fermé jusqu'au bout, quoi. Quelquefois, elles tentent des perches. Et c'est là où il faut être très attentif à ce qu'elles disent. Il ne faut pas y aller avec nos gros sabots et dire « Oui, t'as un cancer, t'as réfléchi à la mort. » Non, c'est pas ça du tout, quoi. Hein? Mais quelquefois, la personne, indirectement, elle essaie d'ouvrir une porte. Et notre attitude, là, est très importante parce que bien souvent, nous, on referme la porte à cause de la peur de notre propre mort. Donc beaucoup de c'est pour ça que dans les soins palliatifs il y a une formation, quoi, pour qu'on travaille sur notre propre mort de façon à l'apprivoiser un peu plus que à l'ordinaire, et pour être sensible au fait de reconnaître que la personne tend une perche et ne pas fermer cette porte, parce que peut-être que la personne a besoin d'en parler mais qu'elle ne va pas le dire directement. Elle ne va peut-être pas dire « Bon, je sais que la mort arrive bientôt, voilà, je voudrais en parler. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe en général.
Et finalement, on se croyait proche, et finalement, dans un cas comme ça, on ne l'est pas, j'en sais rien, mais moi, j'ai le sentiment d'être totalement...
Non, être proche pour aider une personne dans cette situation, c'est, je dirais, la présence et l'écoute. Il ne faut pas la ramener avec nos conceptions, nos idées, etc. C'est être présent, mais une présence discrète, une présence demandée. Il ne faut pas être intrusif, hein, et s'imposer, mais c'est être dans une présence. Une véritable présente qui écoute, qui accueille, qui et peu importe si l'attitude ou ce que dit la personne en face, ça ne correspond pas à l'image qu'on a d'elle ou à nos propres conceptions. Il faut laisser tout ça de côté et être vraiment présent.
Et le pire, c'est qu'ils sont plus jeunes. Je me dis, ben, moi, qu'est-ce que je fais à mon âge? Alors que c'est des jeunes qui m'ont...
Et ça, ça...
Alors, je trouve que c'est presque injuste.
Ben, c'est comme quand Liliane a perdu son fils. Là, je connais quelqu'un qui est en train de perdre son fils de 30 quelques années, quoi. Et la réflexion de tout le monde, c'est injuste, c'est les parents qui doivent partir avant les enfants. Non, il n'y a pas cette logique dans la loi de l'impermanence.
Présence. Présence discrète.
Oui. Mais une véritable présence, ce n'est pas être là physiquement. Et, hein, c'est une véritable présence. C'est la Je crois que véritable présence, c'est dans une grande part silencieuse, silence bienveillant. Quoi.
Et aussi le fait qu'on peut être très proche d'une personne, mais comme on ne la connaît pas entièrement, on peut avoir des surprises à ce moment-là aussi. Ça, c'est clair qu'il y a des réactions qu'on n'attendait pas, peut-être,
ouais.
par ce biais-là.
Ouais. Mais il y a un verbe qu'il faut, à mon avis, ne plus utiliser quand on est dans cette attitude de présence bienveillante, c'est le verbe faire. Hein.
Ouais.
Il faut être, mais ne pas faire. Par contre, on peut poser la question, c'est que puis-je faire pour t'aider, quoi. Vous savez, les formations pour les soins palliatifs. Le premier module, qui est sur vraiment notre mort, apprivoiser la mort, etc. Bon, c'est des jolis termes, hein, on ne peut pas sortir au bout de 6 mois en se disant, ça y est, je suis clair avec ça, quoi. Hein. Mais ce premier module, il est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de se dire que je dois être ensuite accompagnant en soins palliatifs. Il est ouvert à tout le monde. En tout cas, Jalmalve. Et vous avez un centre Jalmalve à Colmar, il y en a un à Mulhouse, il y en a un à Strasbourg, etc. Mais Jalmalve, c'est ouvert à tout le monde. Le deuxième module, c'est pour ceux qui se destinent ensuite à accompagner. Mais le premier module, et je trouve que c'est très bien fait, et que c'est une grande formation pour soi-même, parce que, eh bien, on va aborder quelque chose avec lequel on n'est pas forcément au clair, quoi. Et ça se fait sur 2 jours par mois, sur 6 mois, et ça paraît peu, mais ce qu'on travaille pendant 2 jours, il faut bien 29 autres jours pour dégérer ce qu'on a travaillé pendant les 2 jours. Donc ça, même si vous n'avez pas l'intention de devenir accompagnant pour personne en fin de vie, vous pouvez très bien vous inscrire pour un premier module de façon à travailler sur cette question-là. On apprend beaucoup, beaucoup de choses sur notre façon de réagir, notre façon de concevoir notre mort, la mort des autres, la mort de nos proches. On est dans une société, hein, où la mort, on ne veut pas la voir, quoi. Il n'y a même plus de signes de deuil. Alors, au 19e, d'accord, les signes, il fallait rester 2 ans en plein deuil, en grand deuil, etc. C'était absurde. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas du tout qui vous croisez si cette personne n'est pas en état de faiblesse, de vulnérabilité, parce qu'elle souffre, parce qu'elle vient de perdre un proche. Avant, il y avait le signe de deuil qui montrait que cette personne était fragile, quoi. Aujourd'hui, non. Il faut être beau, jeune, bien portant, et tout va bien. Hein, tout va bien. Je viens d'enterrer ma mère, mais tout va bien, quoi. Voilà. Mon gosse vient de mourir, mais ça va, quoi. J'assume, je gère, comme on dit. Ouais. On en est tellement éloigné qu'il faut des années et des années, voir quand le... J'aime pas cette expression, faire son deuil, hein, mais aujourd'hui, on se rend compte que des années plus tard, la personne n'a toujours pas dépassé ça, fait ce travail-là. Et ça, c'est vraiment un gros problème de notre société, quoi. Même une personne qui vient de décéder, il faut qu'elle soit absolument maquillée, etc. C'est-à-dire belle, jeune et bien portante, quoi. En pleine santé, quoi. Soi-disant, c'est plus agréable pour les proches. Des fois, la personne, j'ai une tante qui vient de décéder, personne ne l'a reconnue. Elle était maquillée et coiffée de façon mais complètement différente de ce qu'elle a été toute sa vie. Et moi, je n'ai pas pu aller la voir, mais mes sœurs m'ont dit, mais je ne l'ai pas reconnue, quoi. On est un peu...
J'ai un ami qui m'a dit un jour en discutant de la mort que la mort c'était un scandale.
Mais
c'était un énorme scandale. Ouais. Il n'arrivait pas à concevoir qu'il allait un jour mourir.
Ouais. Mais ça c'est très, très typique. Enfin, c'est plus fort en Occident qu'ailleurs. Quand on dit quel est le contraire de la mort, les Occidentaux répondent c'est la vie, quoi. 9 personnes sur 10. Jamais un Asiatique vous répondra c'est la vie, il vous répondra c'est la naissance. Et ça trace deux pensées philosophiques totalement différentes. C'est-à-dire que pour un Asiatique, surtout pour un Asiatique de culture bouddhiste, ce qui a une naissance a forcément une durée et une fin, quoi. Enfin voilà, au cours de ce mois, essayez de travailler sur... la pensée sur comment vous réagissez par rapport à ce qui s'élève dans votre esprit et essayez de travailler là-dessus, quoi. N'oubliez pas la vue juste, hein. C'est pas parce qu'on passe à un deuxième point que le premier, ça y est, c'est acquis, quoi. La vue juste, c'est le plus difficile à pratiquer et vraiment, c'est le cœur même du dharma, quoi. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.
Juste un petit mot, avant que vous rejoigniez votre domicile, il y a une tisane bien chaude qui vous attend dans le vestibule. Hein.
Voilà. Merci.
Comment ?
Il faut choisir son sachet.
Ah, mais d'accord.